Le 31 août 2021, le dernier avion de l'armée américaine quitte Kaboul, achevant le retrait des États-Unis d'Afghanistan et mettant ainsi un terme à une guerre qui durait depuis l'automne 2001. Plus de 3 ans après le départ des États-Unis, quelles sont les nouvelles réalités de l'Afghanistan ? Sans trop remonter dans le temps, rappelons que l'Afghanistan se trouve engagé depuis 1979 dans une spirale délétère avec l'invasion soviétique de l'Afghanistan qui met fin à la détente Est-Ouest. 10 ans plus tard, les soldats soviétiques quittent l'Afghanistan en 1989, année qui se termine par l'ouverture du rideau de fer. Les attentats du 11 septembre 2001 par Al-Qaïda aux États-Unis relancent un cycle de violence puisque Washington et ses alliés recherchent en Afghanistan le cerveau des attentats, un certain Oussama Ben Laden. Tout en mettant 10 ans à localiser Ben Laden, au Pakistan, les États-Unis font de l'amélioration du statut des filles et des femmes afghanes un marqueur de leur action. Et pourtant, 20 ans plus tard, quand les talibans entourent la capitale, les États-Unis quittent ce pays de façon chaotique. Mais pouvait-il en être autrement ? Plus de 3 ans après le départ des États-Unis, quelles sont les nouvelles réalités de l'Afghanistan ? Pour répondre à cette question, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Mélissa Cornet. Mélissa Cornet effectue des travaux de recherche en Afghanistan depuis janvier 2018 pour des think tanks locaux ou internationaux. De janvier à juin 2024, Mélissa Cornet a réalisé un reportage sur les droits des femmes afghanes avec la photographe irano-canadienne Kiana Ayeri, d'abord exposée à Paris au réfectoire des Cordeliers à Odéon, puis sur le quai Anatole France, toujours à Paris. Autant dire que notre invitée connaît l'Afghanistan comme sa poche.
Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise.
Bonjour Mélissa Cornet.
Bonjour.
Puis-je me permettre de vous poser une question un peu indiscrète ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'être depuis 2018 une femme chercheuse et reporter en Afghanistan ? Alors que chacun d'entre nous croit savoir qu'être une femme en Afghanistan, c'est déjà pas simple, être occidentale non plus. Concrètement, ça se passe comment ?
Ça dépend vraiment. Premièrement, être une femme qui travaille en Afghanistan, c'est de manière contre-intuitive un avantage. Une femme internationale en Afghanistan, c'est une sorte de troisième genre un peu neutre, ce qui veut dire qu'on peut parler à tout le monde. On peut parler aux hommes, c'est accepté, alors que c'est assez inapproprié pour un homme et une femme afghane, s'ils ne sont pas la même famille, de se parler. On peut parler aux femmes, bien évidemment, et on peut parler aux enfants. Donc c'est un avantage quand on fait des entretiens de recherche ou des entretiens de journalisme. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, en Afghanistan, si on arrive à avoir les visas et les autorisations nécessaires, c'est beaucoup moins dangereux qu'avant. Avant août 2021, être international, ça veut dire être une cible de kidnapping, d'attaque, etc. Alors qu'aujourd'hui, les internationaux sont relativement respectés et protégés par les talibans. Donc par exemple, au cours de mes années de travail sous les talibans, j'ai jamais vraiment eu la peur d'être arrêtée ou autre. Je savais, parce que ça a été le cas pour plusieurs journalistes, que s'il y avait un problème avec les talibans, ils me demanderaient de quitter le pays. Mais il n'y a pas, par exemple, de politique de l'otage comme on peut avoir dans d'autres pays comme l'Iran.
Autrement dit, vous pouvez circuler et travailler. Mélissa Cornet, les États-Unis ont quitté l'Afghanistan en août 2021. Est-ce que ce départ a mis fin aux difficultés de l'Afghanistan ? Les talibans ont-ils, comme ils le promettaient, redressé la situation au bénéfice de la population ?
Alors oui et non. Le changement le plus notable depuis le départ des Américains, c'est bien évidemment la fin du conflit. Et c'est quelque chose que tous les Afghans et les Afghanes, quelle que soit leur vue sur les talibans, nous disent. C'est la première fois depuis plusieurs décennies qu'ils sont en paix. Ça veut dire qu'ils peuvent circuler dans le pays. J'ai des amis afghans qui m'ont dit que c'est la première fois depuis 20 ans que je peux retourner dans le village de mes parents et de mes grands-parents. Et c'est quelque chose de très important pour eux. Tout le reste, en revanche, tout s'est empiré. La chose la plus importante aujourd'hui, c'est la situation économique. Depuis 2021, les Afghans peinent à continuer à travailler, à trouver un emploi, à se nourrir. Et c'est donc une situation qui, pour les hommes comme pour les femmes, s'est empiré.
Pour les plus faibles, qui sont souvent les personnes âgées, les bébés, les femmes. Concrètement, ça se passe comment ?
Il y a une vraie absence en Afghanistan de système de sécurité sociale, on va dire. Donc c'est vraiment la famille qui s'occupe des enfants, des personnes handicapées, des personnes âgées, etc. Mais ce que l'on voit, c'est en l'absence de nourriture, par exemple, c'est systématiquement ces personnes qui vont être dépriorisées. Il y a une mentalité en Afghanistan où ce sont les hommes et les garçons adolescents, notamment, qui sont toujours priorisés, qui ont le contrôle des ressources, de l'argent, qui mangent en premier, etc. Parce que c'est eux qui quittent la maison, qui travaillent et qui ont la charge, en fait, de s'occuper de la famille, de s'occuper de ces populations plus vulnérables qui sont quand même laissées sur le côté.
Et donc, en conséquence, s'il y a un choix à faire, il est défavorable à la fille ou à la femme ?
Systématiquement. Et donc, par exemple, nous, on a vu... dans les hôpitaux d'action contre la faim, par exemple, où on s'occupe des enfants mal nourris, à quel point il y a beaucoup plus de bébés et filles admises que de bébés et garçons, parce que c'est elles qui systématiquement sont dépriorisées.
Et encore, on les amène peut-être un peu tard.
Voilà, on sait aussi qu'il y a malheureusement plus de décès de bébés filles que de bébés garçons. Et on a même vu aussi, on a passé beaucoup de temps dans les maternités du sud de l'Afghanistan, où l'on a vu, on a pu voir une dizaine d'accouchements et la réaction de la femme et surtout de sa belle famille quand le bébé né se révélait être une fille et pas un garçon. Parce qu'évidemment, elles ne savent pas avant la naissance le genre du bébé. Donc il y a une vraie discrimination sur la manière dont sont traités les bébés et les enfants selon leur genre.
Ce qui est extraordinaire, c'est que des femmes puissent intérioriser le fait qu'avoir une fille, c'est moins... positif.
C'est cela.
Comment est-ce qu'on arrive à cette construction-là ? Ça reste un mystère pour moi.
Elles perçoivent vraiment les filles presque comme des poids, parce que c'est pas elles qui peuvent ni s'éduquer, ni travailler, donc elles ne peuvent rien ramener au sein de la famille. Et du coup, c'est elles, la voie maintenant pour ces jeunes filles, c'est le mariage. C'est l'accomplissement pour elles.
L'Afghanistan d'aujourd'hui, Mélissa Cornet, est au croisement d'une multitude de crises. Alors, sans prétendre être exhaustif, quelles sont les grandes crises qui travaillent aujourd'hui l'Afghanistan ?
Dès le 31 août 2021, on a eu une crise économique immédiate qui s'est déclarée. Pour des raisons toutes simples, c'est qu'une fois que les talibans sont revenus au pouvoir, des régimes de sanctions ont été mis en œuvre. Se sont activés, disons. Les avoirs de la banque centrale qui étaient détenus aux États-Unis ont été gelés immédiatement, donc la banque centrale a cessé de fonctionner.
Cette décision a été prise par les Occidentaux.
Voilà.
En admettant que ce terme veut dire quelque chose.
Voilà, sous des régimes de sanctions. Donc c'était impensable pour les Occidentaux de rendre l'argent de la banque centrale afghane, qui appartient au peuple afghan, à un gouvernement qui est contrôlé par les talibans. On a eu l'arrêt, la suspension de l'aide au développement et de l'aide humanitaire. L'aide directe au gouvernement afghan représentait alors 80% du budget du gouvernement afghan, qui s'est arrêté du jour au lendemain. On a eu un effondrement du système bancaire commercial, qui se reposait sur le fait d'avoir une banque centrale afghane fonctionnelle, ce qui n'est plus le cas. Donc du jour au lendemain, par exemple, on a vu des longues files devant les banques d'Afghans qui ne pouvaient même plus accéder à leur argent. Donc même ceux qui avaient des économies ne pouvaient plus y accéder. Cette crise économique a entraîné une crise humanitaire, une crise de la faim, où l'on a vu, moi j'ai vu dans des distributions de nourriture du Programme Alimentaire Mondial, des ingénieurs, des médecins, des personnes éduquées et de la classe moyenne, qui du jour au lendemain se sont retrouvés à ne plus réussir à nourrir leur famine. On a eu très peur la première année qu'il y ait une famine. On a eu des situations de pré-famine entre le fait qu'il y avait une crise économique, mais aussi l'inflation, qui du coup ne pouvait plus être contrôlée par la Banque centrale, qui ne fonctionnait plus. Heureusement, cette crise humanitaire est sous contrôle, dans le sens où les agences des Nations Unies et les ONG arrivent à empêcher cette famine en distribuant de la nourriture, par exemple. Le problème principal aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à sortir de cette solution à court terme. On distribue à manger, donc ça aide une famille pendant un mois. Le mois suivant, il faut continuer à l'aider, mais à cause notamment des régimes de sanctions, mais aussi du fait qu'il y a beaucoup de crises aujourd'hui dans le monde à couvrir, on ne peut plus repartir sur des projets de développement ambitieux qui permettraient de soutenir les agriculteurs, de créer des jobs, d'aider les micro-business, et qui feraient en sorte que les Afghans n'ont plus besoin de cette aide humanitaire. Et la troisième crise, enfin, c'est la crise des droits humains. Et là, on voit vraiment, évidemment, à quel point les femmes et les filles sont affectées, mais aussi les minorités. par exemple. Hum.
Est-il exact qu'aujourd'hui, en Afghanistan, une femme qui se promène dans la rue doit être accompagnée d'un chaperon qui est un homme de sa famille, époux, peut-être frère ou fille, je ne sais pas, qui est, ai-je compris, responsable en fait du bon respect des règles de comportement de la femme en question, et qui est responsable.
C'est cela.
Ce que je trouve d'une perversion totale, parce qu'on fait intérioriser aux hommes le fait d'être exécuteur des basses œuvres, en quelque sorte, et de maintenir la pression.
Et c'est aussi quelque chose de, on peut dire, de presque intelligent de la part des talibans, d'avoir externalisé ce contrôle des femmes aux hommes de la famille. Donc ce que l'on voit, c'est que les femmes nous disent, c'est pas le taliban qui va venir et m'empêcher de travailler, d'aller de faire quoi que ce soit. C'est les hommes de ma famille. Soit parce qu'ils sont très conservateurs. Donc, ils sont pas, c'est pas désagréable pour eux que les talibans soient au pouvoir et ça leur donne toute latitude de faire ce qu'ils veulent. Ou alors simplement parce qu'ils sont inquiets. On a vu beaucoup de pères qui ont juste simplement peur pour leurs filles, donc c'est eux qui en premier vont leur dire j'ai pas envie que t'ailles au marché ou autre. Et donc on a plusieurs décisions comme ça, comme par exemple il y a eu un décret sur le port du hijab de manière générale, c'est-à-dire la couverture des cheveux, du corps et du visage, qui disait si la femme ne porte pas suffisamment bien son hijab, c'est pas elle qui va être punie. C'est son mahram, donc son chaperon masculin. Donc, comme on l'avait dit, généralement, c'est son père, son mari, son fils, qui va être puni jusqu'à 3 jours d'emprisonnement. Et donc, c'est lui qui est responsable de s'assurer que la femme se couvre bien. Et donc, c'est presque comme si, au regard de la loi des talibans, la femme était un mineur qui n'était pas capable presque d'être de s'assurer qu'elle respecte la loi.
Planisphère pour Radio Notre-Dame et RCF. Pierre Verluise.
Mélissa Cordet, durant 2 décennies, ce qu'on appelle parfois, à mes yeux, de manière abusive, la communauté internationale, a été très engagée en Afghanistan en termes de moyens humains, de dépenses, d'aide au développement. Plus de 3 ans après le départ des États-Unis d'Afghanistan, comment la dite communauté internationale, qui par ailleurs a beaucoup changé depuis 20 ans, conçoit-elle sa relation à l'Afghanistan ?
C'est une situation très compliquée pour, notamment, disons qu'on va, séparer, on va parler de 2 groupes de pays différents. Les pays régionaux, pour qui la sécurité est le plus important et qui ne sont pas très intéressés par les questions de droits humains. Eux parlent aux talibans, ont leurs ambassades, il n'y a aucun souci. La Chine, la Russie, l'Iran, le Pakistan, etc. Si on parle des pays occidentaux, qui pendant 20 ans ont été présents en Afghanistan, ont promu ces questions de droits des femmes et des filles, c'est beaucoup plus compliqué. La plupart n'ont pas d'ambassade fonctionnelle en Afghanistan et ne savent pas vraiment comment gérer leur relation aux talibans. Certains essaient de parler aux talibans. C'est très dur parce que en plus de 3 ans, on n'a eu aucune concession sur les domaines des droits des femmes notamment, mais aussi parce que c'est très dur pour eux au regard de leur propre population de justifier parler aux talibans. Donc, c'est un équilibre en fait très, très compliqué qu'ils doivent réussir à gérer. On voit aussi un désintéressement total. Comme on l'a dit, il y a beaucoup de crises dans le monde aujourd'hui qui requièrent leur attention et leur financement. Et de manière un peu cynique, moi j'ai eu des discussions avec des diplomates qui disaient « Voilà, c'est dramatique la situation des droits des femmes, mais en fait les 3 choses qui intéressent le plus les Occidentaux et les pays de la région aujourd'hui, c'est une, la lutte contre le terrorisme. On ne veut pas de Daesh, on ne veut pas d'Al-Qaïda, on ne veut pas de groupe terroriste en Afghanistan qui pourrait, comme pour le 11 septembre, planifier une attaque. » Ça, c'était dans l'accord de Doha signé avec les Américains et les talibans. Et pour le moment, c'est a priori respecté. La deuxième, c'est la lutte contre les narcotiques. Jusqu'à 2021, 95% de l'héroïne en Europe venait d'Afghanistan. Les talibans ont interdit la culture de pavot. La culture de pavot s'est effondrée de 95%. Donc aujourd'hui, l'Afghanistan n'est plus le premier producteur mondial. C'est devenu de nouveau le Myanmar. Et donc les Occidentaux sont relativement satisfaits de cette lutte contre les narcotiques.
Par ailleurs, il n'y a jamais eu autant de produits toxiques, de drogues, chimiques ou pas, sur les marchés européens.
Voilà.
Indépendamment de ce qui se passe en Afghanistan.
Et la troisième, c'est la lutte contre la migration illégale. Donc évidemment, les talibans auraient pu... arrivent encore relativement à faire en sorte qu'il n'y ait pas, par exemple, de grandes vagues de migration d'Afghans ou d'Afghanes qui se dirigent vers l'Europe. Donc, au final, sur ces 3 questions un peu plus, on peut dire, cyniques, au final, les talibans remplissent leur part du contrat, en fait.
Sur la question migratoire, c'est extrêmement important, étant entendu que les Afghans qui arrivent en Europe arrivent après des routes migratoires extrêmement compliquées et sont dans un état extrêmement dramatique. Donc ce sont des personnes fragiles et difficiles à gérer humainement. Est-ce une question dont je devrais avoir la réponse, mais ce n'est pas le cas. La France a-t-elle encore une ambassade à Kaboul? Elle a été fermée un temps, monsieur l'ambassadeur est revenu, il est reparti en Afghanistan ou il est toujours à Paris?
Il n'y a pas d'ambassadeur français à Kaboul aujourd'hui. Les bâtiments de l'ambassade sont encore évidemment là, mais il n'y a officiellement pas de présence diplomatique française en Afghanistan. Il y a des discussions, mais qui généralement prennent place lors de forums multilatéraux, que ce soit des discussions à Doha ou autres, dans lesquelles la France peut choisir de participer ou non.
Voici quelques années, environ 2 ans, 3 ans peut-être, il y avait sur la grille du Quai d'Orsay à Paris un panneau d'environ 2 mètres sur 1,50 m disant que la France soutient une diplomatie féministe. Joli slogan. Qu'est-ce qu'il en est devenu concrètement au vu de votre expérience de terrain? Ça veut dire quoi?
Quand on parle d'Afghanistan, je pense que c'est très difficile quand on est diplomate parce que rien ne marche vraiment. On a essayé les sanctions, l'isolation, les talibans s'en fichent. On a essayé de leur parler, il n'y a pas non plus eu de résultat. Et donc il y a une vraie frustration dont on ne sait pas vraiment par quel bout prendre le problème.
Ça nous renvoie à une certaine forme d'impuissance.
Exactement.
Qui est insupportable pour nous qui pensons être le centre du monde et être maître de tout, à commencer par le monde, ce qui est évidemment une illusion.
Exactement. Et il y a aussi une pression sur le fait de ne pas avoir de résultats. Évidemment, la diplomatie prend beaucoup de temps. C'est très important de réussir à garder des canaux de communication si on veut pouvoir un jour réussir éventuellement à les influencer. Mais malheureusement, en 3 ans et 3 mois, on n'a aucun résultat positif, ni des sanctions, ni de l'engagement, ni des discussions que l'on peut avoir avec les talibans.
Donc, oui, pour un diplomate, l'idée, c'est qu'il faut pouvoir discuter avec tout le monde, y compris d'abord avec les gens avec qui on n'est pas d'accord.
Sinon, exactement.
Si c'est pour parler avec des gens avec qui on partage tous les points de vue, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bon, cette position professionnelle est tenable, parler avec tout le monde à condition d'avoir des résultats. Et effectivement, ne pas avoir de résultats, ça renvoie un écho pénible.
Voilà, et encore une fois, il peut y avoir beaucoup de réactions de la population française qui dit « Mais comment osez-vous parler aux talibans alors qu'on a un équivalent d'apartheid de genre dans le pays ?» Donc il y a aussi, je pense, tout un travail un peu d'éducation de dire « Mais il faut parler aux talibans comme il faut parler aux Russes, comme il faut parler aux Iraniens. » C'est tout ce qui fait la diplomatie, en fait. On ne peut pas parler que à nos amis, ce serait trop facile sinon.
Alors justement, Mélissa Cornet, terminons par un sujet délicat. La maîtrise du corps et de l'esprit des femmes, qui représentent environ la moitié de la population en Afghanistan comme ailleurs. Les Occidentaux avaient fait des droits des femmes un marqueur politique, un marqueur de leur action. On avait mis en évidence un certain nombre de parcours de personnes qui étaient toutes plus exemplaires les unes que les autres. Aujourd'hui, comment pèse cet héritage?
Aujourd'hui, en Afghanistan, être une femme, ça veut dire ne pas pouvoir aller à l'école après la sixième, ne pas pouvoir aller à l'université, ne pas pouvoir travailler dans la plupart des secteurs. Ça veut aussi dire devoir se couvrir quand on sort de chez soi, à l'exception des yeux.
Ouais.
Devoir être accompagnée tout le temps d'un chaperon masculin. Ça veut dire ne pas pouvoir aller dans les parcs, ne pas pouvoir aller dans la nature, dans les bains publics, dans les gyms, dans les salons de beauté. Donc en fait, on ne s'attaque pas seulement aux droits économiques et sociaux, mais il y a toute une part de la volonté des talibans de s'attaquer à ce qui fait presque l'humanité en fait de ces femmes, c'est-à-dire le droit de parler en public, le droit de montrer son visage. En fait, on leur refuse le droit de faire partie de la société en fait. Et donc, en conséquence...
De vivre, tout simplement.
Tout simplement, exactement, de vivre.
Des choses simples.
C'est vraiment...
Même de faire des batailles de boules de neige, ai-je appris.
Oui, tout leur est interdit aujourd'hui et c'est ça a été très dur pour Kiana et moi quand on a fait ce reportage, de pouvoir documenter la perte de l'espoir, vraiment. On a rencontré par exemple deux sœurs, Razia et Zahra, elles ont 17 et 14 ans, et alors que l'aînée se bat pour aller dans des écoles secrètes, alors que son école avait été attaquée par Daesh, donc c'est une vraie battante, sa petite sœur de 14 ans, donc qui avait 11 ans au moment de la chute de Kaboul, nous disait « mais pourquoi j'irai à l'école en fait ?» J'ai pas envie de sortir de chez moi, il y a des talibans au checkpoint, je veux pas me faire harceler, et de toute façon je peux pas aller au lycée, je ne peux pas aller à l'université, et je ne peux pas travailler, donc pourquoi je sortirais de chez moi? Et en fait, pour nous, de voir qu'ils avaient réussi à la convaincre...
Bien sûr, à faire intérioriser une fois encore.
Exactement. Pour nous, c'était dramatique, en fait. Autant que les mariages de jeunes filles autres, ça veut dire qu'ils ont gagné, parce qu'ils ont réussi à lui faire perdre son espoir, à lui faire perdre son ambition.
Alors, les Occidentaux avaient fait du droit des femmes une priorité, mais est-ce que ça n'explique pas aussi pourquoi, du point de vue des talibans, c'est difficile de lâcher là-dessus? Parce que justement, c'est un symbole.
C'est cela. D'une manière un peu ironique, le fait que les pays européens et les Américains aient fait des droits des femmes leur cheval de bataille pendant les 20 ans d'intervention, mais aussi depuis août 2021, ça rend presque le fait de faire des concessions pour les talibans plus difficile. Dans le sens où on sait que les talibans, c'est pas monolithique, il y a beaucoup de tensions en interne au sein du mouvement taliban, y compris sur l'éducation des filles ou le droit des femmes à travailler. Beaucoup de talibans, jeunes notamment, disent maintenant que le pays est sous charia, c'est le pays le plus musulman du monde. Il n'y a rien dans l'islam qui dit que les filles ne peuvent pas aller à l'école ou que les femmes ne peuvent pas travailler, tant qu'elles sont couvertes, qu'elles sont accompagnées, que les bureaux sont ségrégés. Donc on sait vraiment qu'il y a cette tension et qu'il y a vraiment une partie du mouvement taliban qui pousse le leadership à revenir sur ses décisions. Mais si le leadership décide d'autoriser les filles à aller à l'école ou les femmes de travailler, ils ont peur que cela soit perçu comme une défaite face aux Occidentaux. Alors que leur posture... Voilà, alors que eux répètent, nous avons défait l'armée la plus puissante du monde, nous avons récupéré notre pays, donc personne ne va nous dire quoi faire chez nous. Donc d'une manière un peu bizarre, ça leur rend la tâche presque plus difficile.
Oui. Ce qui est un bel exemple des effets boomerang des Exactement. Politiques occidentales dans les questions de développement sur les 50 dernières années. On croit souvent être plus malin qu'on ne l'est en vérité, et on alimente parfois un boomerang qui nous revient dans la figure. Quoi qu'il en soit, les non-droits des femmes pénalisent le développement en Afghanistan comme ailleurs.
C'est cela. Les deux préconditions de la communauté internationale occidentale, disons, à la reconnaissance, c'était un, les droits des femmes, et deux, l'inclusivité du gouvernement, notamment par rapport aux minorités ethniques qui ne sont pas du tout représentées. Aujourd'hui, cela rend impossible le fait de réintégrer l'Afghanistan dans la communauté internationale, de lever les sanctions, ou même d'augmenter l'aide au développement dans un pays où, par exemple, les femmes n'ont pas le droit de travailler pour les ONG ou pour les agences de l'ONU. Donc on a vraiment une situation de double peine. Déjà parce que les Afghans et les Afghanes souffrent des politiques des talibans, mais aussi parce qu'elles souffrent du fait que la communauté internationale n'arrive pas à gérer des problèmes pragmatiques comme soutenir l'économie afghane, soutenir le secteur privé qui bénéficierait à tout le monde.
Et puis les femmes ont leur génie singulier qui font qu'elles peuvent apporter évidemment à l'économie.
Voilà. L'ONU avait calculé que le fait que les femmes ne puissent plus travailler dans la plupart des secteurs, ça représentait un effondrement de 5% du PIB afghan, l'équivalent environ $1 milliard.
Mélissa Cornet, pour en savoir plus à ce sujet, quelles seraient les sources et ressources que vous pourriez nous indiquer? Je signale que vous avez un site qui s'appelle melissacornet.org, sur lequel on peut trouver nombre de photos, des dessins, des liens vers des publications que vous avez faites. Ça s'écrit www.melissacornet.org. Mais vous avez peut-être d'autres suggestions à nous faire en 30 secondes.
Oui, alors sur les analyses, le meilleur travail fait aujourd'hui, c'est fait par le think tank bruxellois International Crisis Group. C'est eux qui ont des analystes qui continuent à être sur le terrain et font un travail absolument remarquable. On a aussi des journalistes françaises, notamment, qui continuent à travailler en Afghanistan, qui font un travail remarquable. Notamment, je pense à Solène Chalmon-Fioriti, qui fait des reportages et des articles.
Merci Un grand merci également à notre réalisateur Guillaume Nougaret. Planisphère recevait Mélissa Cornet, qui réalise des travaux de recherche en Afghanistan depuis janvier 2018 pour des think tanks locaux ou internationaux. Elle a réalisé un reportage sur les droits des femmes afghanes qui est visible dans plusieurs expositions.